Chapitre 5. Discussion. Au cours de cette longue nuit, nous avons comparé nos vies et celles de nos parents. Tout est venu un peu dans le désordre, au gré de nos associations d'idées et des questions que nous nous posions mutuellement. Il semblait que la jeunesse de Lily et James Potter ait été la même dans les deux mondes. L'autre en connaissait beaucoup moins d'épisodes que moi. Mais tout ce que je lui révélais cadrait avec le peu que les amis de ses parents lui avaient raconté. De son côté, il m'a parlé d'une scène de la cinquième année de James qu'il n'avait jamais évoquée devant moi. Mais ce dernier n'y apparaissait pas vraiment à son avantage. Et il n'était pas impossible qu'elle ait existé dans mon monde et qu'il ne s'en soit pas vanté. De plus, elle illustrait assez bien l'animosité qui existait entre lui et Severus Rogue. Mon double me parla de la prophétie. La fameuse prophétie. Je compris à quel point elle avait changé sa vie et à quel point elle l'effrayait par ce qu'elle impliquait. Je fus surpris d'apprendre que c'était Trelawney qui l'avait énoncée. Trelawney ? Elle dit de vraies prophéties, m'étonnai-je ? Pas souvent, mais ça lui arrive, m'assura-t-il. Elle en a fait une devant moi, une fois. Mais c'est vrai que le reste du temps, elle raconte n'importe quoi. Elle enseigne aussi chez toi ? Oui, mais je n'ai pas pris divination. Ma mère a insisté pour que je prenne arithmancie à la place. C'est bizarre.
Qu'est-ce qui est bizarre ?
Dumbledore m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de l'engager. Ce n'est qu'après sa prédiction qu'il a préféré la garder à l'abri. À Poudlard, m'expliqua-t-il.
Mais alors pourquoi l'aurait-il engagée dans mon monde ? Demandai-je.
C'est précisément la question que je me pose. « Il y a peut-être une autre raison, » hasarda-t-il.
« Elle a peut-être fait une autre prédiction, » avançai-je.
« Ou la même qui ne s'est pas réalisée, » proposa-t-il. « Peut-être qu'elle désignait celui qui a arrêté tu sais qui dans mon monde, » continuai-je sur ma lancée. « Quand a-t-il été arrêté ?» demanda-t-il. « Le 31 octobre 1981, » répondis-je. Ma réponse le laissa pensif. « Il s'apprêtait peut-être à aller tuer tes parents » supputa-t-il. « Il n'avait aucune raison de chercher à les tuer si la prophétie ne parlait pas de moi, » opposai-je. Il secoua la tête d'agacement. « Tu es sûr que tu n'as jamais entendu parler d'une prédiction » insista-t-il. « Certain. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'ait pas existé, » admis-je. « On aurait pu me la cacher, comme à toi. » Cela dit, elle ne peut pas indiquer que je dois tuer le Seigneur des Ténèbres, car dans mon monde, ce n'est pas possible. Il n'est plus dangereux, maintenant, privé de son âme à Azkaban. D'ailleurs, il est peut-être mort depuis longtemps. Nous avons laissé tomber le sujet, ne sachant quoi dire de plus. Il me raconta par le menu ce qui s'était passé le 31 octobre 1981. Quand je lui demandais comment il pouvait en connaître les détails, il m'avoua, sur un ton qui se voulait détaché, qu'il entendait toute la scène dans sa tête, en présence de des traqueurs. La compassion qui me saisit à cette révélation me coupa presque le souffle. Je détournai vivement les yeux pour qu'il ne puisse s'en rendre compte et en être blessé ou embarrassé. Heureusement, il enchaîna très vite sur les cours que lui avait donné Remus, quand il avait eu besoin d'apprendre à créer un patronus. Il me demanda quelle était la vie de notre ami dans mon monde. Et je lui fis très plaisir en lui parlant de sa modeste carrière au ministère dans les services de régulation des créatures magiques. Bien entendu, certains de ses collègues le considéraient comme à peine plus humain que les trolls ou les détraqueurs qu'ils étaient chargés de contrôler. Mais d'autres avaient appris à le connaître et à l'apprécier. Non, il n'était pas marié. J'avais surpris une conversation entre mes parents à ce sujet. Mon père regrettait que son ami considère son état comme empêchant toute idée de mariage et même de liaison sérieuse. Je crus comprendre que les deux amis semblaient avoir eu de nombreuses discussions à ce sujet, mais visiblement mon père n'avait jamais réussi à convaincre Remus. Parler de Sirius fut très douloureux pour l'autre. Mais il insista pour que je lui dise le plus de choses possibles sur la femme de mon parrain, Antje, et leur fille Alice. Il me demanda plusieurs fois si celui-ci était heureux, et je lui répondis que oui. Il me demanda ensuite s'il vivait place Grimor. Ce n'est que lorsqu'il précisa que c'était l'antique maison des Black que je compris de quoi il parlait. Je lui appris que mon Sirius avait vendu la maison de ses parents après la mort de sa mère, sans jamais y remettre les pieds. Mon double évoqua pour moi son séjour dans cette maison des horreurs et termina en me racontant les circonstances dans lesquelles son parrain avait disparu. Les mots avaient du mal à sortir. Il me fit là une véritable confession et, aussi douloureux que cela semblait être pour lui d'évoquer ce jour-là, je sentis qu'il avait besoin de m'en parler. Même si son récit laissait apparaître les responsabilités diverses qui avaient abouti à ce résultat, à savoir le mensonge de l'elfe, les cours d'eau Clumency sabotés par Rogue, les silences de Dumbledore, il se considérait cependant comme le principal responsable de la disparition de son parrain. C'est lui qui avait pris la mauvaise décision, lui qui avait désobéi aux directives des adultes et lui qui n'avait pas écouté Hermione. En outre, il avait mis ses amis en danger de mort. « Il n'était pas obligé de te suivre ?» lui fis-je remarquer. « S'ils sont venus, c'est qu'ils étaient d'accord avec ton analyse de la situation. » « Justement, non. Hermione a essayé de me retenir. » « Raison de plus pour ne pas y aller. Tu ne peux pas te considérer comme responsable du choix des autres. De toute façon, ils ne sont pas de ton côté uniquement pour te faire plaisir. Si tu perds, ils sont mal barrés, eux aussi. Peut-être. Mais si je n'avais pas voulu aller au ministère, Sirius serait encore vivant. Qu'en sais-tu? Et qui sait ce que celui dont on ne doit pas prononcer le nom aurait imaginé pour te faire aller là-bas, si cette tactique n'avait pas marché? Il aurait peut-être enlevé Ron ou Hermione, et c'est eux qui seraient morts. Tu veux que je me félicite de ce qui est arrivé à Sirius? Je te fais simplement remarquer que c'est débile de te croire responsable de tout. Il y a eu des morts dans la guerre que mes parents ont menée avant ma naissance. Il y en aura dans la tienne. Tu n'y peux rien. Il haussa les épaules, manifestement peu désireux de poursuivre notre conversation sur ce thème. Je changeai donc de sujet. Je sais que Ginny est coriace, et j'ai vu Ron et Hermione en cours de défense. Mais j'ai du mal à imaginer Neville et Luna se battre contre des mange-morts. Il me parla alors de l'AD, ces cours clandestins de défense qu'il avait donnés l'année précédente, et je compris d'où il tenait ses aptitudes à enseigner. Nous avons ensuite comparé la personnalité de nos amis. « Elle est comment, Luna, chez toi ?» me demanda-t-il. « Comme ici. Fantasque, décalée et amie avec Ginny, » répondis-je. J'adore ses commentaires. Des fois, j'invente des trucs déments et je lui en parle. Une fois, je lui ai raconté une histoire inspirée d'un livre de fantasy moldu que ma mère avait acheté à ma sœur Rose. J'ai tout retrouvé dans le chicaneur un mois plus tard, avec plein de détails inédits. Mon père était mort de rire quand je lui ai raconté. « J'imagine », estima-t-il en souriant lui-même. Je lui ai ensuite décrit mon Neville à moi, beaucoup plus affirmé que celui qui vivait ici, pince sans rire, populaire. Dans un premier mouvement, l'autre sembla avoir du mal à me croire. Puis il admit que la façon dont sa grand-mère avait élevé notre condisciple n'avait pas dû l'aider à montrer tout son potentiel. Je lui demandais ce qui était arrivé aux parents de mon ami, et, après avoir hésité un instant, il me le dit. Je ressentis une nouvelle fois une profonde compassion, et je lus dans les yeux de mon double la réplique de ce que je ressentais. Nous avons longuement parlé de Ginny. Cela lui faisait plaisir. Et j'étais également très curieux de mieux connaître ma meilleure amie. Il me raconta l'épreuve qui avait été la sienne lors de sa première année. Je fus bouleversée d'apprendre qu'elle avait été la victime d'une résonance de vous savez qui. Malgré cela, je jugeais qu'elle était restée assez semblable à celle que je connaissais. Tout comme dans mon monde, elle était une version féminine de ses frères jumeaux. Il me demanda comment étaient les jumeaux chez moi. Une fois que j'eus terminé ma description, il m'affirma qu'ils étaient bien pareils ici,
J'en profitais pour lui demander s'il savait comment ils avaient fait pour trouver les fonds nécessaires à l'ouverture de leur magasin. Je le sentis hésiter, mais il m'avoua assez vite que c'était lui qui leur avait donné l'argent. Cela me stupéfia. Bien que très proche des jumeaux, je n'avais jamais pensé qu'ils pourraient avoir de tels projets si on leur en donnait les moyens. Ils m'avaient confié leur intention de vendre leurs produits par l'intermédiaire de Zonko. Et je n'étais pas allée chercher plus loin, alors même que les activités de mon père auraient dû m'en donner l'idée. Honteux, je demandais à mon double comment, lui, avait été amené à leur faire cette proposition. C'est ainsi qu'il se retrouva à me parler du tournoi des trois sorciers. Je fus impressionnée par ses performances lors des épreuves, mais ce n'était rien par rapport à ce qu'il avait vécu ensuite. Je fus tétanisée par le récit de ce qui s'était déroulé dans le cimetière. Il avait adopté un ton impersonnel, comme s'il n'était pas celui qui avait subi cette terrible épreuve. Mais rien ne pouvait effacer l'horreur de la renaissance macabre du Seigneur des Ténèbres, les trois impardonnables lancés par mon double, les fantômes sortant de la baguette de leur meurtrier, ni la mort subite de Digory. De toutes ces atrocités, ce fut le meurtre dont Peter était l'auteur qui me troubla le plus. Parce que dans mon monde, le meurtrier était l'ami de mon père, un adulte en qui j'avais toujours eu confiance. Jusqu'à ce moment, j'avais réussi à occulter qu'il avait, ici, trahi mes parents au profit de Voldemort. Peut-être qu'au fond de moi, je m'étais persuadée qu'il n'avait pas eu le choix, qu'on l'avait forcé à révéler le secret dont il était le gardien. Mais apprendre qu'il avait froidement abattu un adolescent m'obligeait à admettre sa noirceur. Derrière le gentil Peter, il y avait un être fourbe, prêt au pire vilenie pour complaire à son maître. L'autre me demanda ce que Peter était devenu dans ma vie à moi. Mal à l'aise, je lui révélai qu'il voyait toujours régulièrement mes parents et qu'il travaillait dans une des animaleries du chemin de traverse. Il s'entendait généralement bien avec les animaux. « Avec les chats aussi ?» avait demandé l'autre avec dérision, faisant sans doute allusion à sa forme d'animagus. Puis, il me demanda si Peter était marié. Non, il ne l'était pas, mais cela faisait plusieurs années qu'il vivait avec la même femme. « Et une petite vie bien tranquille !» avait ironisé l'autre, toujours aussi amer quand il s'agissait de lui. « Dans cette vie-là, il n'a rien fait de mal, » lui répondis-je, prenant perversement la défense de l'indéfendable. « Tu n'en sais rien ?» me répliqua-t-il. « Et puis, jusqu'à la prophétie, nos parents sont exactement les mêmes dans les deux mondes, non ? Et lui aussi, sans doute. Dans les mêmes conditions, il aurait donc fait les mêmes choix. Ce sale rat est pourri. Ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça, » lui fis-je remarquer. « Il n'est pas dans ton monde, de toute façon. » « Tu as bien assez à t'occuper du tien. »« C'est vrai, » grogna-t-il. « La prochaine fois que je le croise, je ne le raterai pas. Quand je pense que c'est moi qui ai convaincu Remus et Sirius de ne pas le tuer, mais quel crétin j'ai été !» Je l'interrogeai sur cet épisode et il me raconta ce qui s'était passé dans la cabane hurlante lors de sa première rencontre avec Sirius. J'avoue que j'eus du mal à imaginer Remus et Sirius pointer leur baguette sur Peter avec l'intention de le tuer. Tout comme l'idée que Peter ait pu passer 12 ans sous la forme d'un rat me paraissait démente. Je ne l'avais d'ailleurs jamais vu transformé, ne connaissant son animagus que par ouï-dire. Il faut dire que c'était moins glorieux que le cerf ou le chien. La nuit était bien avancée, et comme pour éloigner de lui les souvenirs sombres qu'il avait retrouvés pour moi, mon double se leva pour ranimer le feu qui était sur le point de s'éteindre. Cela faisait des heures que Dobby était passé chercher les reliefs de notre repas et nous souhaitait bonne nuit. Tout le monde devait dormir dans le château. Je le regardais remuer les braises, si semblable à mon père dans la semi-obscurité. Tout comme moi, il était plus mince que lui, mais je retrouvais la chevelure à épis, le reflet des lunettes et le profil que nous partagions tous les trois. Jusqu'à maintenant, je l'avais considéré comme une insulte à ma personne. Il avait mon apparence, portait mon nom et mon prénom, et avait ma place dans cette école. Lui-même m'ignorait avec ostentation,
et cela me convenait parfaitement. Si je parlais normalement à Hermione, Ginny, Neville et à nos autres camarades de chambre, en 10 semaines, nous nous étions à peine adressé la parole, si l'on acceptait la discussion que nous avions eue à propos de Ginny. Mais après tous ces souvenirs partagés, j'avais la sensation qu'il était de ma chair et de mon sang. Nous avions les mêmes parents et je me sentais solidaire de ses déboires. Il était mon double, mon ami, mon confident. Il était mon frère. Il se redressa et reprit sa place dans le large et moelleux fauteuil dans lequel il s'était installé en début de soirée. Il s'y pelotonna, puis me demanda très doucement « S'il te plaît, parle-moi de nos parents. » J'eus beaucoup de mal à commencer. J'avais peur de le blesser en racontant mon enfance, qui d'un seul coup m'apparut singulièrement heureuse et choyée. J'avais toujours considéré ma famille comme banale, des parents que j'aimais beaucoup, mais dont les remontrances et conseils m'agaçaient. Une petite sœur, assez mignonne à 16 heures, mais la plupart du temps pot de colle et piailleuse. Devant cet autre moi-même qui avait eu une enfance calamiteuse, les rares allusions qu'on en avait faites devant moi avaient été assez parlantes. J'avais presque honte d'avoir eu autant de bonheur sans le mériter, et surtout sans en apprécier la valeur. Mais il insistait pour avoir toujours plus de détails, et il me fut impossible de résister à ses demandes, tant je sentais dans sa voix le besoin qu'il avait d'en savoir davantage. Je commençais par évoquer mon père, avec son rire communicatif, ses traits d'esprit, ses idées farfelues. Mon père, héritier des Potter qui, sous ses dehors frivoles, avait une assez haute idée des responsabilités qu'il avait envers sa famille, son nom et sa communauté. Il n'avait pas de travail à proprement parler, mais il gérait la fortune familiale. Sa marotte était de découvrir de nouveaux talents et d'investir en eux pour qu'ils puissent mettre leurs idées en pratique. Il avait ainsi investi dans l'art, les sciences et le commerce. Il ne se contentait pas de donner de l'argent à ses protégés. Et il les mettait aussi en contact avec des personnages pouvant les aider à réaliser leurs rêves et suivait leurs progrès de près, avec une insatiable curiosité. Je parlais ensuite de Rose, qui avait 5 ans de moins que moi. Elle avait les cheveux de maman, les yeux de papa. Elle était assez rêveuse et elle adorait les vieilles légendes sorcières et moldues que ma mère lui racontait. Elle aimait lire aussi, farfouiller dans mes affaires, et me poser des questions idiotes. Une petite sœur, quoi. Elle avait insisté pour avoir un chien, et une espèce de boule de poils mordilleuse hantait notre maison et notre jardin. Enfin, j'entrepris d'évoquer ma mère. Elle était affectueuse, jolie et gaie. Elle suivait mes études avec attention et avait, concernant mes frasques, en général beaucoup moins de tolérance que mon père. J'avais déjà reçu 2 beuglantes de sa part durant ma scolarité, dans lesquelles elle n'avait pas mâché ses mots. Elle faisait des recherches indépendantes. « C'est quoi des recherches indépendantes ?» avait demandé mon double. « Des recherches qui sont faites en dehors du cadre du département des mystères, » lui expliquai-je. « Papa dit toujours que maman est son meilleur investissement. » « Et quel genre de recherche fait-elle » s'enquit-il. « Elle étudie la magie ancienne. C'est un sujet qui la passionne, » lui expliquai-je. Plus loquace à ce sujet, que je ne l'avais jamais été. Elle commence à être connue pour ça dans le monde sorcier, tu sais. Elle a retrouvé d'anciens sorts qui avaient été oubliés, car consignés dans plusieurs ouvrages que personne ne consultait plus. Certains ont même intéressé le ministère, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit, car maman n'avait pas le droit d'en parler. Concernant d'autres sortilèges, moins contrôlés, elle a écrit un livre dans lequel elle rassemble toutes ses connaissances éparpillées et inexploitées. « Elle a vraiment travaillé avec Rogue ?» se rappela Harry. « Oui. Lui, il fait la même chose, mais pour les potions. Papa dit qu'il retrouve des recettes de magie noire, mais maman affirme que non. Enfin, plus exactement, la magie ancienne n'est ni noire ni blanche, mais quelque part entre les deux. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Si j'ai bien compris, la limite de maman est le gris clair et celle de Rogue, le gris foncé. Dans ton monde, peut-être. » Car ici, il a clairement dépassé la limite. Il a été mange-mort, tu sais. Il paraît qu'il est ensuite passé du côté de Dumbledore et qu'il aurait espionné pour lui. Mais je suis loin d'être convaincue par sa conversion, affirma mon double. Mais dans ce cas, c'est dangereux qu'il soit à Poudlard, m'écriai-je, outré que le directeur lui fasse courir des risques supplémentaires, alors que les circonstances étaient déjà très périlleuses. Je le sais bien, mais Dumbledore refuse de mettre en doute sa fidélité à l'ordre, fit Harry d'une voix agacée.
L'ordre ?
L'ordre du Phénix, m'expliqua-t-il, une organisation secrète, dont Dumbledore est le chef et qui combat Voldemort. Nos parents en ont fait partie.
C'est vrai ?
M'étonnai-je. Ils me parlent assez peu de leur combat, commentai-je pour expliquer mon ignorance. Mon double revint à notre conversation initiale. Ta mère ne fait que rechercher dans les livres, ou elle fait aussi des découvertes ? Demanda-t-il.
Un peu des deux.
Elle trouve des parties de formules ou de rituels, et elle fait des expériences pour les compléter.
Elle me fait un peu penser à Hermione, commenta-t-il d'une voix ensemeillée.
Ton Hermione, oui, c'est vrai, admis-je. Par contre, tempérai-je, la mienne est un peu trop revêche pour être comparée à maman.
Elles ne sont peut-être pas si différentes que tu crois,
bâilla-t-il.
Peut-être, répondis-je mollement, gagné-moi aussi par le sommeil.
Le silence est retombé et nous nous sommes endormis.
Nous fûmes réveillés par l'elfe Dobby, inquiet de nous retrouver dans les fauteuils de la salle commune, quand il vint nous livrer notre petit déjeuner.
Assommés de n'avoir dormi que 3 heures, nous sommes allés dans l'une des salles de bain communes disposées à mi-étage des dortoirs pour nous rafraîchir un peu. Nous avons investi 2 lavabos contigus et nous nous sommes passés le visage à l'eau froide. Quand nous nous sommes redressés et avons émergé de nos serviettes de toilette, nous nous sommes vus côte à côte, réfléchis par le grand miroir disposé au-dessus des vasques. Ce fut très troublant de nous voir ainsi tous les deux.
« Ça doit faire bizarre pour les autres, » nota Harry.
« Oui, » approuvai-je.
« T'as remarqué au moins que j'ai changé de coiffure pour faciliter notre identification. »
« Bien sûr, » me répondit-il du ton de celui qui n'a rien remarqué du tout.
« Hé, Potter, » le taquinai-je. « Tu devrais faire réviser tes lunettes. T'es complètement bigleux. »
« Au fait, » me demanda-t-il, « comment tu veux que je t'appelle ?»«
T'as qu'à dire Simon, » lui répondis-je.
« Je suis habitué maintenant.
Et puis, c'est toi le Harry Potter ici. »«
Désolé, » murmura-t-il embarrassé.
« De quoi ?» demandai-je.
« Ce n'est pas de ta faute si j'ai atterri ici.
À moins que tu ne m'aies caché quelque chose. Tu as fait un rituel d'invocation. Tu as craché 3 fois au-dessus de ton épaule gauche un jour de nouvelle lune alors que Mars était en conjonction avec Saturne.
Tu crois que ça leur a marché ?» demanda-t-il avec une moue amusée.
Je ne sais pas. Et si on tentait le coup ?
Si ça se trouve, il y a une infinité de mondes parallèles. Il nous suffit de récupérer 50aine de Harry Potter, étant Voldemort, on n'en ferait qu'une bouchée.
L'idée parut lui plaire, et c'est d'assez bonne humeur que nous avons mangé nos œufs au bacon.
J'aimerais tant faire un tour en balai, soupira-t-il, une fois rassasié en regardant le ciel bleu par la fenêtre ouverte.
« On n'a qu'à demander à McGonagall, » proposai-je.
« Elle ne va jamais vouloir. »
Elle était très en colère l'autre fois, parce qu'elle avait eu peur pour nous. Mais elle doit être un peu calmée, maintenant.
« Et comment on lui demande ?» me demanda Harry dubitatif.
« On écrit notre demande sur un bout de papier et on met nos cours de sortilège en pratique, » proposai-je.
« Son bureau n'est pas loin. » On devrait bien arriver à y faire voler un petit bout de parchemin.
Il ne parut pas très convaincu, mais il sortit une feuille de son sac.
Après un court débat, nous avons marqué « Professeur, pourrions-nous sortir 1 heure par jour dans le parc ?» Puis nous avons étudié le trajet à suivre sur la carte du maraudeur. Enfin, nous avons fait partir le papier, à coup de Wingardium et de sortilège de direction. Notre message dut plus ou moins parvenir à destination, car, 1 heure plus tard, la professeure McGonagall pénétrait dans la salle commune des Gryffondors.
« Bonjour, messieurs, » dit-elle un peu sèchement.
« Je ne sais pas comment vous m'avez fait parvenir votre mot, alors qu'il est interdit de faire de la magie dans les couloirs, et je ne préfère pas le savoir. Quoi qu'il en soit, je ne peux accéder à votre requête. Il est beaucoup trop dangereux pour vous de sortir, et vous ne l'avez manifestement pas compris.
tant que nous restons dans l'enceinte de Poudlard. Nous ne risquons rien, protestai-je. Et nous vous promettons de ne plus sortir sans permission. Cela ne suffira pas, j'en ai peur. C'est inhumain de nous tenir enfermés, alors que nous devrions être en train de fêter Noël en famille, plaidai-je. Je lui laissai le temps de se pénétrer de l'argument. Quand je vis sa physionomie sévère se détendre légèrement, je continuai. En plus, ce n'est pas bon pour nous de rester ainsi confinés. À force de tourner en rond, je ne me sens vraiment pas très bien, affirmai-je, tentant de prendre à l'air le plus misérable possible. Ce qui n'était pas très difficile, vu les quasi nuits blanches que nous venions de passer.
Oui, effectivement. Vous avez une petite mine, tous les deux.
Je vais y réfléchir, soupira-t-elle, le regard ému. Peut-être qu'une petite sortie vous ferait un peu de bien. Merci, professeur. Ce serait déjà beaucoup pour nous, la remerciai-je, baissant les yeux, pour garder une expression humble. Mais cela ne doit pas vous faire oublier que vous avez des devoirs à faire, insista-t-elle. Ils sont déjà terminés, répondit précipitamment Harry. Nous pouvons vous rendre nos rédactions de métamorphose tout de suite, si vous le désirez. Je serais effectivement curieuse de les lire avant que votre amie Hermione ne les ait vérifiées, répondit McGonagall avec un petit sourire. Mais je suppose que ce ne serait pas juste de les relever avant celles de vos camarades. Elle hocha la tête en nous regardant, puis sortit. Une fois que le tableau de la grosse dame eut repris sa place dans son dos, Harry me regarda les yeux ronds.
« Mais comment t'as fait ? » dit-il.
« Il suffit d'attendre un peu et de l'attendrir, lâchai-je négligemment, mais assez fière de moi, en fait.
T'avais jamais essayé ? » ?»«
Si, mais... enfin non. J'ai déjà plaidé ma cause, mais c'était juste après qu'elle m'ait donné la punition. Je n'ai jamais pensé à redemander ensuite. »
C'est Sirius qui m'a donné le truc, expliquai-je.
Il m'a expliqué qu'elle est très exigeante envers ses élèves, mais qu'elle les aime bien, au fond. Alors, quand on lui laisse le temps d'oublier un peu nos bêtises et qu'on arrive à la convaincre que nous avons été punis trop sévèrement, on peut l'amener à être plus clémente. Mon allusion à Sirius le figea un instant. Puis il fit une moue et m'opposa. Le problème, c'est que généralement, mes bêtises sont trop grosses pour qu'on puisse facilement les oublier.
C'est vrai que tu joues dans la cour des grands, admis-je en riant.
Avec notre déjeuner, Dobby amena un mot de McGonagall, nous permettant de sortir de 14 à 16 heures chaque jour dans le parc. Il était spécifié que tout débordement d'horaire ou de périmètre serait sanctionné par une interdiction définitive de sortir de notre dortoir jusqu'au retour de nos camarades. On a échangé un sourire victorieux avant de nous jeter sur la nourriture, notre appétit aiguisé par la perspective de pouvoir enfin nous dégourdir les jambes. Le second coup de l'horloge de la salle commune vibrait encore quand nous avons passé le portrait de la grosse dame et rapidement pris le couloir qui menait au grand escalier. Nous avions d'un commun accord décidé de voler. Heureusement, le balai du professeur Bibine était resté dans le casier de Harry et nous avions deux bons balais à notre disposition. Enivrés par l'air pur et l'ivresse du vol, nous avons presque laissé passer l'heure à laquelle nous devions rentrer. Il nous fallut courir comme des fous pour franchir le seuil de notre salle commune avant que 4 heures aient fini de sonner. Épuisés par le manque de sommeil et nos prouesses sportives, nous sommes directement montés dans notre dortoir pour faire la sieste.